This is Radio France International.
De Paris, RFI,
$100.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde. Comme tous les vendredis soirs, nous revenons sur les temps forts de l'actualité de la semaine avec le regard des rédactions du Monde de Radio France Internationale. Ce soir, pour la rédaction en anglais, Sarah Elsals.
Good evening.
Thieu Pham de la rédaction vietnamienne.
Xin chào.
Et Matej Wiśniak de la rédaction roumaine.
Buonasera.
Bonsoir à vous tous. Le retrait américain de l'accord de Paris pourrait, dans le pire des scénarios, se traduire par une augmentation supplémentaire de 0,3 degrés de la température du globe au cours du 21e siècle. C'est le calcul que vient de faire l'ONU, l'accord de Paris sur le climat fixe un objectif global de maintenir la hausse de la température moyenne bien en deçà de 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, et si possible à 1,5, ce qui est déjà un seuil synonyme de profond changement selon les climatologues. Alors depuis que le président américain a annoncé le retrait de son pays de l'accord signé au terme de la COP21 à Paris, les réactions sont très nombreuses, et ce sont autant de critiques, à l'exception de Vladimir Poutine. C'est une femme, la décision de Trump était redoutée, et en plus, elle s'est faite avec des termes très durs.
Oui, c'est vrai que même si on connaît déjà la vision du monde de Trump, et on connaît sa tendance isolationniste, avec le slogan « l'Amérique d'abord », mais on ne s'attendait pas à une telle violence dans ses propos. Car il l'a non seulement retiré des États-Unis de l'accord de Paris, mais il a carrément dressé l'Amérique contre le monde entier, comme si désormais tout ce que fait la communauté internationale était contre les Américains, comme si désormais le monde est divisé en deux blocs, les États-Unis et le reste du monde. Donc c'est une sorte de nouvelle guerre froide. Maintenant, après le commerce international, c'est la Chine, le premier pollueur du monde, qui va peut-être assumer avec l'Europe le leadership dans la lutte contre le changement climatique. Je crois que c'est le monde à l'envers.
Mais on va en parler. En tout cas, dans son discours d'hier, Trump s'est adressé surtout aux Américains, plus exactement à ses électeurs, comme s'il était toujours en campagne. Hein.
Oui, c'est en proférant plein de contre-vérités, plein d'approximatives pour montrer que l'accord de Paris est injuste pour les États-Unis. C'est hallucinant parce que du coup, il a aggravé la division de l'Amérique, dont une grande partie de l'opinion publique a déjà protesté contre ses politiques, surtout sa politique d'immigration. On voit bien que plein de villes américaines, plein de groupes industriels vont tout faire pour contrer la volonté de Trump de se désengager de la lutte contre le changement climatique. Ah,
justement, Sarah Elsass, sur ceux qui résistent, sachant que la bataille du climat est lancée aux États-Unis même.
Tout à fait, dans les villes des États qui ne sont pas du tout d'accord avec la politique de Trump. On a vu ça même avec les politiques d'immigration. Il y a des villes qui ont dit « nous sommes des villes sanctuaires ». Ben là, maintenant, des villes sanctuaires peut-être pour le climat. Alors, plusieurs villes ont dit qu'ils vont monter une résistance. Ils s'engagent d'avancer dans une économie verte. Et pour rappel, là, juste des chiffres, les États-Unis avaient fixé, c'était Barack Obama qui avait fixé, de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 26 à 28% d'ici 2025 par rapport au niveau de 2005. Donc, est-ce que quelques villes et quelques États peuvent réussir ça? C'est possible parce que, quand même, par exemple, la Californie est une grande économie. Si certains se mettent ensemble, peut-être ils peuvent faire contre un peu le gouvernement.
Et le gouverneur de Californie a été très dur, hein. Il a bien dit, mais on va avoir des insectes, on va avoir des morts. Enfin, c'est une question de survie.
Il y a
aussi Pittsburgh. Trump a dit, je fais ça pour l'ouvrier de Pittsburgh. Et le maire de Pittsburgh, il a pas laissé passer l'affaire.
Il a dit non, c'est voilà, exactement. Donc il y a des villes comme ça qui disent non, nous on va pas. Et d'ailleurs, Paris a fait la même chose, hein. Mais aux États-Unis, vraiment, on voit une résistance qui se construit à l'intérieur du pays.
Pour ce qui est du financement, parce que quand on parle sous, peut-être que là,
tout
les choses...
à fait. Donc là, avec le retrait des États-Unis, on voit un quart presque du budget de la Convention climat de l'ONU qui va disparaître. Les Américains aussi, ils financent beaucoup le Fonds vert qui aide les pays les plus pauvres à combattre ça. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y en a qui disent qu'ils vont mettre de l'argent. Par exemple, il y a Michael Bloomberg, l'ancien maire de New York, qui va promettre 15 millions de dollars aux opérations ONU. Bon, c'est petit, mais ça arrive. Et bien sûr, les autres pays vont combler. La Chine, l'Union européenne, européenne, il s'engage, je crois là maintenant, à 100 milliards de dollars annuellement jusqu'à 2020. Donc.
Matej Wiśniewski, Donald Trump, par sa décision de retirer l'Amérique de l'accord de Paris, s'isole un peu plus et isole aussi les États-Unis sur le plan international, si on en juge par l'avalanche de réactions négatives tout au long de ce vendredi.
Oui, parce que plus jamais l'Amérique n'a plus la vision et le statut moral pour assurer le leadership mondial. Et aujourd'hui, on voit par exemple ce slogan « America First » signifie d'une manière évidente « Après moi le déluge ». D'ailleurs, Donald Trump commence à perdre la bataille médiatique parce que son slogan en ce moment irrite tout le monde. Et c'est bien que Emmanuel Macron propose « Make our planet great again » qui a été très très accepté et très rediffusé sur les réseaux de et socialisation.
C'est un record sur Twitter dans les...
Exactement. Et après, il y a de l'intérieur, la mobilisation. Arnold Schwarzenegger a été formidable dans son intervention. Il a dit il y a chaque année 200 000 morts en Amérique à cause de la pollution, de l'air et de l'eau. Donc, le slogan de Donald Trump se retourne maintenant contre lui et c'est insupportable parce que c'est une manière de dire si on coule, l'Amérique va couler en dernière. C'est inacceptable, on est tous sur le même bateau.
Cela dit, dans un premier temps, cette décision des États-Unis et de Donald Trump a un effet sur d'autres pays, Sarah Elsass.
Ça, c'est sûr. Et alors, la question, est-ce que d'autres pays vont prendre l'exemple et dire, nous non plus, on n'a plus besoin de suivre nos promesses là-dessus? Donc, moi, j'avais posé un peu la question à quelqu'un, il s'appelle Andrew Light, du World Resources Institute à Washington. Donc, lui, s'il regarde un peu les ressources environnementales, bien sûr. Et je lui dis, est-ce que ça va ramener d'autres pays à faire pareil?
Écoutons.
I do not think that this will have any effect on the resolve of other countries. Certainly not in a major way.
Donc là, il dit, je ne pense pas que ça aura un effet sur la détermination des autres pays. Je pense qu'ils tiendront la route. Mais et lui, il prend l'exemple pareil. Et comme je disais tout à l'heure, à l'intérieur des États-Unis même, les personnes qui luttent pour le climat ont été même dynamisées par cette élection de Trump. Donc un peu de l'autre côté, on peut dire que c'est une catastrophe pour le climat, mais c'est aussi, ça peut pousser les activistes, les gens d'en faire plus.
Je parlais de la réaction de Poutine aujourd'hui qui ne condamne pas. Matej Wiśniewski, les États-Unis et la Russie ont maintenant un statut similaire de grande puissance qui refuse l'accord de Paris, puisque c'était déjà le cas pour la Russie.
Disons qu'ils jouent dans le même camp isolationniste et écolo-sceptique, Donald Trump et Vladimir Poutine, mais l'attitude de Poutine est moins condamnable que celle de Donald Trump, parce que ce n'est pas le modèle économique et financier russe qui se globalise, c'est celui imposé par l'Amérique. On dit que le monde s'américanise. Autrefois, il était en train de se soviétiser la moitié, mais maintenant, le modèle russe ça n'existe pas, donc il n'y a pas cette dette morale lourde de la part des Russes. C'est l'Amérique qui a assumé le leadership et maintenant il est en train de trahir ce rôle. Et puis Vladimir Poutine, pour d'autres raisons, il ne veut pas croire que c'est grave, il est plutôt pessimiste et résigné. Il dit que de toute façon il n'y a rien à faire, que ça a commencé dans les années 30. Donc il est moins aveugle en effet et moins condamnable que Trump.
Et ça redistribue en tout cas les cartes au niveau international. Tiens, enfin, il m'y faisait allusion tout à l'heure.
Oui, disons qu'en ce moment, c'est l'Europe qui doit reprendre le flambeau, bien que c'est l'Asie, mais c'est vraiment une occasion aussi pour un nouveau leadership au niveau individuel, parce que pour Macron, c'est un boulevard diplomatique et la diplomatie écologique est vraiment à sa portée. Elle s'est déjà exprimée, elle a été déjà bien appréciée. Et puis, il y a encore quelque chose. Cet appel d'Emmanuel Macron pour les scientifiques américains de venir en France, ça, c'est quelque chose de nouveau et extraordinaire. C'est comme on offrait asile scientifique à des scientifiques et chercheurs qui ne peuvent pas s'exprimer aux États-Unis.
Ça, c'est la réaction de la France. T'es une femme, comment réagit un petit pays comme le Vietnam?
Le Vietnam doit être très déçu et inquiet parce que le Vietnam, c'est un des pays les plus touchés par le changement climatique avec la montée du niveau de la mer à la hausse des températures. Donc, on contaste déjà les effets du changement climatique sur l'agriculture du Vietnam. Donc, le Vietnam compte beaucoup sur l'aide internationale pour faire face au changement climatique. Donc, avec le retrait des États-Unis de l'accord de Paris, le financement risque d'être fortement réduit et ça va impacter la capacité du Vietnam de s'adapter au changement climatique.
Merci à vous tous donc pour cet aspect, ce discours de Trump. Vous écoutez Accent du Monde sur RFI.
Bienvenidos a este informativo de Radio France.
Paris Live with me, today's headlines.
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
Autre centre d'intérêt des rédactions en langues étrangères de RFI, la campagne électorale au Kenya qui commence. La commission électorale a validé 8 candidatures pour la présidentielle qui aura lieu au mois d'août. Alors le président sortant, Uhuru Kenyatta, se représente alors que l'opposition a formé une coalition et son candidat, Raila Odinga, a déjà été candidat 3 fois. La dernière fois, c'était en 2013. Sarah Elsass, à quelle campagne électorale faut-il s'attendre au cours des prochaines semaines?
Ça, on va bien sûr suivre dans notre rédaction en anglais, mais pour l'instant, la commission cette semaine a appelé pour une campagne calme. On rappelle bien sûr la violence qui a suivi il y a 10 ans les élections au Kenya. Plus de 1000 personnes ont été tuées. Une violence qui avait quand même un caractère assez ethnique, car les élections au Kenya se jouent plutôt sur les lignes ethniques et géographiques, même si Uhuru Kenyatta, le président actuel, compte pousser son programme de développement économique pour convaincre les électeurs de le redonner un mandat.
Et puis cette semaine, il y a eu l'inauguration d'une ligne ferroviaire qui devrait relier toute l'Afrique de l'Est. Inauguration en grande pompe avec le président sortant.
Oui, et peut-être pas tout à fait un hasard. Et il veut vraiment porter ça, l'idée du développement, dans sa campagne présidentielle. Donc c'est le plus grand projet d'infrastructure réalisé au Kenya depuis l'indépendance du pays en 1963. La première partie a été inaugurée mercredi. Ça relie la capitale Nairobi à Mombasa, sur l'océan Indien. Kenyatta avait promis cette ligne dans sa campagne. Maintenant, il a pu l'inaugurer. Il y a une controverse avec le prix, 3 milliards d'euros financé par la Chine. Un expert financier kenyan, Ali Khan Sachu, nous a parlé des questions autour de ce projet.
There are great concerns in the country that the amount of debt has expanded considerably under this administration, but obviously.
Que vous a-t-il dit?
Donc là, il dit il y a beaucoup d'inquiétudes, car ce gouvernement a bien élargi la dette du pays, à savoir que sous Kenyatta, la dette du pays a augmenté de 53% du PIB, comparé à 40% avant. Sachu nous dit que c'est clair qu'avec un projet tel que cette ligne ferroviaire, ça va coûter. La question, c'est si ça va ramener assez de revenus pour rembourser les créanciers chinois dans le temps. Lui, il pense que oui. La ligne coupe le temps de trajet, donc entre Nairobi et Mombasa, presque en deux pour les passagers, mais aussi pour le fret.
Et puis il y a la question de l'environnement qui se pose.
Et c'est ça, en effet. Donc les trains sont en diesel, donc polluants. Et le prochain tronçon va traverser le parc national de Nairobi. Donc on a parlé, nous, avec Salisha Chandra, qui est sur le conseil d'administration du parc. Elle dit qu'elle n'y croit pas aux assurances des constructeurs qu'il y aura des passages pour les animaux.
Écoutons-la.
Donc là, elle dit, personne ne veut bloquer le développement économique d'un pays, mais là, on ne peut vraiment pas avoir un développement qui n'est pas durable. À part des questions d'environnement, elle dit que la ligne ferroviaire cause aussi des problèmes aux personnes. Elle divise les terres, il y a des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école parce que le chemin est bloqué par les rails et les barrières. Donc, un projet controversé, mais qui va peut-être amener beaucoup de développement économique dans ce pays et qui va certainement jouer dans cette élection.
Absolument, une campagne électorale. Donc, la rédaction anglophone de RFI sur et c'était Sarah Elsass. Revenons à la diplomatie. Matei Vichniec, la rédaction roumaine s'est grandement intéressée à la visite que Vladimir Poutine a effectuée en début de semaine à Paris, notamment à Versailles. En effet, ce déplacement officiel a été suivi avec beaucoup d'attention en Roumanie. Hein.
Oui, tout d'abord pour voir combien de pas fait la France vers la Russie, ou est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se créer entre la Russie et l'Union européenne. Je rappelle qu'en 2019, la Roumanie va assurer la présidence de l'Union européenne, donc chaque geste que la France fait vers Moscou, c'est intéressant là-bas. Mais aussi, je rappelle que la Roumanie a une frontière commune avec l'Ukraine et que la crise ukrainienne, ça touche beaucoup les esprits là-bas. Il faut dire que de temps en temps, le président ukrainien Petro Poroshenko déclare que le spectre d'une escalade de la violence a grandi, ou qu'il est impossible une invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. Donc, il y a toujours une tension là-bas. On a entendu les déclarations de Poutine, mais pour lui, rien ne change. C'est l'Ukraine qui est coupable. La seule avancée, c'est la décision de se voir encore dans le format Normandie, c'est-à-dire avec Angela Merkel et Petro Poroshenko un peu plus tard.
Autre chose, le président roumain part après-demain à Washington et le 9 juin, il sera reçu par Donald Trump. Quel est votre commentaire sur cette visite surprise, finalement?
Ah oui, c'est très bien, pourquoi pas. En effet, l'Amérique est présente dans les pays de l'Europe de l'Est avec des troupes, avec un déploiement qui est très important. Il faut dire aussi que le président roumain va recevoir une distinction de la part de la communauté du comité juif américain. C'est une distinction importante que Angela Merkel a eu avant lui, Nicolas Sarkozy, Bill Clinton, c'est-à-dire il est récompensé pour son activité, pour assurer la stabilité, la démocratie, la justice en Roumanie, ce qui est une sorte de prix accordé à la Roumanie pour son côté stable et pro-européen dans les pays de l'Europe.
Alors Donald Trump et Klaus Ioannidis vont parler de ce partenariat stratégique signé il y a 20 ans de cela par les deux pays. Est-ce que les Roumains craignent que l'Amérique de Trump ne soit plus intéressée à conserver ce partenariat?
Bah oui, parce que là, Barack Obama a ordonné en effet le plus grand déploiement militaire en Europe depuis la fin de la guerre froide, et Donald Trump, il veut changer un peu la donne. En ce moment, il y a 6000 militaires déployés en Estonie, Lettonie, américains, Lituanie, Pologne, 500 en Roumanie et dans d'autres pays de l'Europe de l'Est avec des équipements. D'ailleurs, chose absolument incroyable, dans quelques jours, il y a un festival qui commence à Sibiu et des soldats américains vont participer pour la première fois, ils vont suivre une pièce de théâtre à Sibiu, en Roumanie.
Et on sait que vous aimez grandement le théâtre, Mathieu Vichniec de la rédaction roumaine. Il y a trois jours, le premier ministre vietnamien a été le premier dirigeant de l'Asie du Sud-Est à rencontrer le président américain Donald Trump à la Maison-Blanche. Une occasion pour le chef du gouvernement de mieux connaître la politique de Trump sur l'Asie en général et sur le Vietnam en particulier. Thieu Nguyen Pham, quel est l'état des relations entre le Vietnam et les États-Unis qui ont été en guerre il y a cela quelques années, et cela depuis l'entrée de Trump à la Maison-Blanche?
Par rapport à son prédécesseur Obama, Trump semble délaisser l'Asie et se montre plus conciliant vis-à-vis de la Chine, car il a besoin de Pékin pour régler le problème nord-coréen, car la Corée du Nord est considérée comme la menace la plus sérieuse pour les États-Unis. Donc il a déjà retiré les États-Unis de l'accord de libre-échange partenariat transpacifique, laissant le champ libre à la Chine dans ce domaine.
Et vous avez interviewé un expert.
Voilà, donc il a expliqué que en envoyant le Premier ministre à Washington, le Vietnam cherche à mieux connaître la politique de Trump. On l'écoute.
Alors de qui s'agit-il et
voilà,
que dit-il?
Il a dit que c'est le Vietnam qui a cherché à faire avancer les relations avec les États-Unis et surtout à arranger cette rencontre avec Donald Trump. Donc il y a quelques mois, le ministre vietnamien des Affaires étrangères a rencontré les plus hauts responsables américains de Washington pour préparer cette visite. Donc il pense que c'est une très bonne initiative pour le du côté du Vietnam.
Alors ça, c'est donc l'avis de ce chercheur à l'Institut d'études de l'Asie du Sud-Est. Sur le commerce, quelle est l'importance des États-Unis pour le Vietnam, Thieu Nguyen?
Les États-Unis sont devenus le plus grand marché pour les exportations vietnamiennes, mais ces échanges sont déficitaires du côté des Américains. Donc il a fortement augmenté ces dernières années pour atteindre 32 milliards de dollars l'année dernière. Donc pour compenser un peu ces déficits, à l'occasion de la visite à Washington, le Premier ministre vietnamien a signé beaucoup de contrats, au total de 8 milliards de dollars, avec les entreprises américaines.
Ce qui doit plaire, bien évidemment, à Donald Trump. Rapidement, concernant la sécurité, le Vietnam peut compter sur les États-Unis pour renforcer sa défense face à la Chine?
Le Vietnam est considéré comme le partenaire stratégique important pour les États-Unis. Donc, le fait que Trump accepte de recevoir le Premier ministre vietnamien à la Maison-Blanche montre que le président américain veut aussi faire avancer les relations, surtout la coopération sur la défense.
Merci Thieu Nguyen Pham de la rédaction vietnamienne de Radio France Internationale. C'était Accent du Monde, en quelques instants, l'essentiel de l'actualité du monde.